Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et la possibilité de recevoir cette parole. Nous allons prier pour recommander toutes choses entre ses mains. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ta parole. Et Seigneur, nous prions pour que ta parole soit la réponse, Seigneur, que nos cœurs désirent, Seigneur. Transforme-nous. Agis par ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc chapitre 15, c'est notre passage principal d'où nous tirons aussi la pensée du Seigneur ce matin. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, c'est l'histoire du fils prodigue, une partie, parce que nous n'allons pas tout lire, nous allons nous arrêter au verset 20. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Voilà l'histoire de ce fils qu'on nous décrit. Et ce que j'aime dans le verset 20, entre le verset 17 et le verset 20, on comprend ce qui s'est passé pour ce fils. Au verset 17, on nous dit qu'il a commencé à réfléchir sur son état. Il s'est mis à penser à sa situation. On nous dit, étant entré en lui-même, il se dit, comment se fait-il que les ouvriers... Vous savez, il y a une différence entre un mercenaire et un ouvrier. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui... Un ouvrier, un esclave à l'époque ou un domestique, c'est quelqu'un qui est à notre service, mais avec qui on a une relation de proximité. On se voit tous les jours et la personne a un salaire. Mais le mercenaire, c'est différent. Pourquoi ? Parce que le mercenaire, lui, ce sont des missions ponctuelles. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui quand il y a une mission spécifique. C'est comme ici, si j'ai besoin d'un travail en plomberie, je veux faire intervenir un professionnel, peut-être un entrepreneur ou une grande entreprise, mais qui viendra régler mon problème. Mais une fois que le problème est réglé, le chèque est fait, la facture est payée, nous n'avons plus rien à voir. C'est ça le mercenaire. Donc il vient pour un travail. Ensuite, une fois que le travail est fait, il part. Et là, le fils ne se met même pas dans la situation des domestiques, des ouvriers de son père, des gens qui travaillent quotidiennement pour son père. Il se met à la place de quelqu'un qui viendrait de manière ponctuelle, qui n'a aucune relation avec le père. Vous voyez sur quel plan il se met? Il dit, même les mercenaires, les gens de l'extérieur, ils ont du pain en abondance. et moi ici, je meurs de faim. Alors, lui vient une réflexion. Il se dit, je vais aller voir mon père. Et quand je vais arriver vers mon père, je veux lui dire ma situation, lui dire, mon père, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et on lui dit au verset 20, il se leva et alla vers son père. Le thème de notre partage aujourd'hui, je cherchais un thème qui parle et on a intitulé le thème de ce matin le courage de faire demi-tour. On va expliquer par la grâce de Dieu la pensée du Seigneur au travers de ce texte. Le courage de revenir à la source, c'est ça que j'appelle faire demi-tour. Vous savez, c'est ça la conversion, c'est on allait vers un cap, on allait vers une direction, pardon, on change de cap, on change de direction, on change d'objectif, on change de vie. Et c'est ce que nous allons voir, bien aimé, que il faut du courage pour cela. Il faut du courage. Voilà pourquoi nous disons le courage de faire demi-tour. Parce que, vous voyez, entre la réflexion que ce fils se fait, la décision qu'il prend dans son cœur, et le fait qu'il mette ça en application, bien aimé, vous savez, c'est trois étapes qui sont différentes. Trois étapes différentes. Combien, bien-aimés, savent ce qui est bon, mais ne le font pas pour autant? Vous savez, il y a une différence entre savoir ce qui est bien, savoir ce qui est mal, et mettre les deux en adéquation, en pratique. C'est différent. Parlez à ceux qui s'alcoolisent. Certains vous diront, oh, jeune homme, ça c'est pas bon, hein. Il te montre sa bouteille pour dire, c'est pas bon. Mais lui-même, même s'il sait que ce n'est pas bon, mais il est dedans. C'est-à-dire, connaître les choses, les intégrer et les vivre, c'est deux choses différentes. C'est là que je veux insister sur ce texte bien-aimé. Peut-être qu'on n'a jamais vu cet aspect des choses, mais ce texte nous apprend que savoir ce qui est bien ne suffit. Vous savez, tout le monde sait. On entend les gens dire, bon, moi je veux perdre du poids, moi je veux... Mais tout le monde sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Il n'y a pas de mystère, hein? Il n'y a pas de mathématiques. En fait, c'est mathématique. C'est-à-dire, moins tu manges, moins tu prends je ne sais pas comment dire ça, en poids. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, moins tu manges, moins tu prends. Donc, ne serait-ce que changer la façon de s'alimenter suffit pour régler le problème. Mais combien le savent? Mais beaucoup. Et j'irai encore plus loin, parce que là, je parle seulement de l'alimentation. Mais les spécialistes vous diront quoi? Il faut une activité sportive. Ah, ben c'est là que le bas blesse. Parce que les gens aimeraient avoir des résultats sans produire de l'effort. Voilà pourquoi il y a toutes sortes de... toutes sortes d'entreprises où on te dit, bon, on va te ramener. Mais bien aimé, est-ce que tu as besoin qu'on te fasse, que tu payes pour qu'on te fasse, vous savez, c'est le tupperware où on te dit, ben, aux 4 heures, vous avez un petit gâteau sec. Est-ce que tu as besoin d'acheter ça pour... Mais bien aimé, c'est parce que les gens veulent quoi? Ils ont un objectif, ils savent ce qui est bon, ce qu'ils doivent faire, mais ils ont besoin que quelqu'un fasse le travail pour eux. Il y a une différence entre savoir ce qui est bien et le mettre en application. Il y a une grande différence. Ce fils savait que sa situation serait meilleure où? Je nous pose la question. Sinon, je vais désigner des personnes. Où est-ce que sa situation était meilleure? Chez son père. Il le savait. Mais maintenant, retourner chez son père, ça impliquait quoi? Je nous pose la question. Est-ce qu'il peut... Comment? Pourquoi du courage? L'humilité, voilà. Parce que il faut être humble. Qui peut rajouter quelque chose? Il faut faire demi-tour, oui. Mais ça implique quoi? C'est ça le thème. Mais ça implique quoi, se faire demi-tour? Ça implique mourir à soi-même. Ça implique, j'ai entendu quelque chose? Voilà, c'est ça le point que j'ai écrit, bien aimé. Ça implique reconnaître que je me suis trompé. Et bien aimé, c'est pour ça que nous parlons ce matin du courage. Alors tu me diras, oui, mais c'est Dieu qui fait. Oui, Dieu, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu ne viendra pas à ta place prendre la décision. Revenir chez son père implique qu'il reconnaît qu'il s'est trompé. Vous voyez l'assurance avec laquelle le fils vient voir le père pour lui dire, mon père, donne-moi... Attendez, on va lire. Hein. Mon père, le plus jeune, verset 12, hein, dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc quand il vient ce fils, il vient en revendiquant son droit. Il dit, dans tous les biens que tu as, j'ai ma part à moi. Déjà, la démarche est faussée parce que le père est encore en vie. Donc comment tu vas réclamer quelque chose de ton père alors qu'il est vivant? Encore, il serait mort, il aurait laissé un testament. Oui, ça peut se comprendre. Mais il vient avec assurance pour dire à son père, donne-moi ce qui m'appartient. En quelque sorte, le père aurait pu dire aussi non. Mais on dit le père leur partagea son bien. Mais faire demi-tour, changer de cap, revenir, impliquer le fait qu'ils reconnaissent que je me suis trompé, bien aimé. C'est là que c'est difficile pour beaucoup. Reconnaître que je me suis trompé. Beaucoup résistent. Beaucoup cherchent à trouver des excuses pour dire, mais après tout, si je suis parti, c'est que c'est mon père qui m'a laissé aussi partir. Il est aussi fautif que moi. Parce que s'il m'aimait, il n'avait qu'à me retenir. Vous savez, beaucoup aujourd'hui, quand on parle de Dieu, on leur parle de Dieu, ils disent, oui, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de malheurs dans le monde? Mais pourquoi il y a tant de... Vous voyez comment l'homme se défausse sur les autres. L'homme rejette sa responsabilité sur les autres. Et j'aime ce texte parce que quand il parle, il dit « je ». Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai. C'est, il prend la responsabilité. En quelque sorte, faire demi-tour implique le fait de reconnaître que je suis coupable. Mais non seulement je suis coupable, encore être coupable, mais continuer dans une vie d'illusion, ça te conforte. Mais vous savez, Dieu va permettre que tu sois dans une impasse. C'est ça le cas de ce fils. Tu te retrouves dans une situation, vous savez, nous qui travaillons avec des jeunes, certains vont partir en fugue parce que le cadre ne plaît pas, parce que pour un ado de 17 ans, on te dit, allez, à 21h30, allez, tu rends ton téléphone portable. On en conviendra que beaucoup ici ne vivent pas ça. C'est humiliant. Mais c'est ça le cadre. Parce qu'on se dit, si on commence à faire à la carte, l'autre dira, oui, mais pourquoi Jean-Luc, moi je rends mon téléphone et l'autre qui garde. Ah ben non, tant qu'il garde, moi je garde aussi le mien. Donc on met tout le monde à égalité. Alors pour éviter ça, ben, il y en a qui partent en fugue. Mais vous savez, la fugue, tu vas chez qui? Chez chez les parents d'un copain. Ils vont te garder un jour, deux jours, trois jours, mais ils ne vont pas te garder six mois. Et bien souvent, quand c'est comme ça, nous, on appelle les parents pour dire, vous savez que, déjà, premièrement, vous recevez un enfant placé. Deuxièmement, un enfant placé mineur. Troisièmement, la police va intervenir chez vous. Quatrièmement, vous risquez de... Et je peux vous dire que là, les parents chassent l'enfant rapidement. Parce qu'ils ne veulent pas de problème. Beaucoup disent, ouais, mais moi, je vais me débrouiller tout seul. Mais tu penses que, parce que tu as à manger le midi, le soir, tu as une douche tous les jours, tu as des vêtements, tu penses que tu peux t'assumer? Vas-y, assume-toi. On va voir. On va voir. Vous savez, beaucoup pensent que la vie est rose à l'extérieur. Mais la vie est rose parce que tu as un toit. Parce que tu as un pied à terre, comme on dit. Mais le jour où tu n'as pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il faut maintenant retourner à la case départ. Mais pour ça, il faut reconnaître que j'ai fait fausse route. Que je me suis trompé. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup, bien-aimés. Vous savez, Jésus parle avec un homme dans Jean 3. J'avais prévu qu'on lise, mais on n'ira pas. Jean au chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus pour lui dire, mais effectivement, ce que tu fais montre que Dieu est avec toi. En fait, il confirme ce que Jésus dit hein, dans Jean 10. Jésus dit, si vous ne croyez pas à cause de paroles que je dis, croyez au moins à cause de, lecteur de la Bible, si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez au moins à cause voilà, lecteur de la Bible, c'est dans Jean 10, donc devoir à domicile, chercher, on va s'arrêter là. Non, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais qui témoignent de moi. C'est ce que Jésus dit. C'est-à-dire, même si tu as de mauvaise foi, par rapport à ce que je prêche, parce que c'est la vérité, mais au moins, en voyant les œuvres, un aveugle né qui voit, un paralytique qui marche, un mort qui ressuscite, en voyant ça, pose-toi la question. Alors, Nicodème vient voir Jésus pour lui dire, j'ai analysé tout ça. Effectivement, personne, c'est Nicodème qui dit, hein, ne peut faire ce que tu fais si qui? Si Dieu ne l'a envoyé, si Dieu n'est derrière la chose. Qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Vous voyez, Jésus lit le cœur de Nicodème. Il lit la pensée de Nicodème. Il dit à Nicodème, écoute, au lieu de passer par quatre chemins, si tu veux aller au ciel, tu dois faire quoi? Tu dois naître de nouveau. Alors Nicodème, vous savez, Nicodème était qui? Quelle était la fonction de Nicodème par rapport au peuple d'Israël? Il était le docteur de la loi. Donc il avait un certain parcours religieux. Donc on peut imaginer que cet homme-là avait un certain âge. Il était avancé en âge. Il était respecté, respectable. Alors Jésus lui dit, si tu veux aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Bon, Nicodème regarde Jésus, il dit, bon là là, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et ça, c'est moi qui rajoute. Peut-être qu'il avait aussi ses arguments pour dire, oui, mais est-ce que moi tel que je suis, parce que ça, c'est ça qu'il dit, hein, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Et moi, je rajoute maintenant, si sa mère est morte, peut-être il se dit, ah, je veux le piéger. Ah, maintenant, comment je veux faire? Ma mère est morte. Jésus lui dit, oh, Nicodème, je ne parle pas de ça. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, pour aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Nicodème? Il est en train de dire à Nicodème que tout ce que tu as appris pendant toutes ces années-là, tu dois y renoncer. Tu dois recommencer à zéro. Bien-aimé, c'est ça mon premier point. Le courage de faire demi-tour, premier point, c'est que c'est quelque chose qui fait mal à la chair. Parce que on questionne, Dieu questionne nos certitudes. Toutes les choses qu'on a apprises comme étant vraies, Dieu vient et dit non, tout ça, c'est comme on dit en français, tu dois les désapprendre. Vous savez, ce n'est pas évident. Pour quelqu'un qui a appris un chant pendant 30 ans d'une certaine manière, quand il arrive à un endroit où on le chante différemment, ben, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que il y a le rythme, il y a la façon de chanter, il y a la voix, il y a le phrasé, tout ça. Il doit d'abord déconstruire ce qu'il a appris et ensuite, maintenant, apprendre ce qui est nouveau, entre guillemets, la nouvelle façon de faire. Et bien aimé, Nicodème, regarde Jésus. Et Jésus lui dit, tu sais, quand quelqu'un est né de nouveau, maintenant, puisqu'il est une nouvelle personne, il suit maintenant le mouvement de Dieu. Le vent souffle. Il entend le bruit. Il ne sait pas où conduit le vent, mais il sait que le vent le porte. C'est ça. Mais la difficulté pour Nicodème, c'est de dire, ah bon, donc moi je dois faire demi-tour avec tout ce que j'ai appris. Vous savez, c'est un des problèmes qu'on rencontre avec les religieux, quand je dis religieux, c'est des gens qui sont dans l'islam, des gens qui sont dans le catholicisme. Une fois, je discutais avec un collègue, autrefois quand j'étais hébreu, musulman, qui s'apprêtait à devenir imam, mais je peux vous dire qu'il y avait une connaissance, entre guillemets, de la Bible époustouflante. Une connaissance de la Bible époustouflante. C'est-à-dire qu'il parlait comme... Tu discutes avec lui, tu as l'impression de parler avec un chrétien, avec des références. Dans Deutéronome 8, verset 7, dans Jean 13, verset 12, dans... En fait, quand tu discutes avec lui, ça te perturbe. Et on est arrivé au point du salut. Moi, je lui dis, mais tu sais, pour être sauvé, la Bible est simple. Hein. Il faut croire en Jésus et on est sauvé. Dans une discussion qui a duré longtemps. Et à un moment... Il dit, mais finalement, c'est trop simple, c'est trop facile, ça. Je crois que Dieu... Je dis, mais oui, mais c'est ça l'amour de Dieu. Dieu ne nous sauve pas à cause de nos œuvres, Dieu nous sauve à cause de son amour. Et son amour s'est manifesté en Jésus. Il suffit d'accepter Jésus. Donc tu es sur le point, là je le taquine, tu es sur le point d'accepter Jésus. Parce que, à ce moment-là, vous savez, il était comme un homme amadoué. Il me dit, oh Jean-Luc, même si j'ai plus d'arguments, jamais je vais changer. Je dis pourquoi? Parce qu'en fait, il ne m'a pas répondu, mais changer pour devenir chrétien, c'est ce qu'on appelle hein, un suicide intellectuel. C'est-à-dire que il renonce à tout ce qu'il a appris. Non seulement il renonce à tout ce qu'il a appris, il renonce même, d'une certaine manière, à son identité parce qu'il est connu en tant que tel, parce qu'il est de telle famille, parce qu'il est musulman, parce qu'il est fils d'imam, parce qu'il est imam en devenir. Donc, renoncer à tout ça, c'est entrer dans l'incertitude. C'est prendre le risque d'être rejeté. C'est prendre le risque... Quand on regarde autrement, ceux qui te respectaient dans le quartier en disant « Ah, lui, il est pieux, il connaît les Écritures. Lui, c'est un savant, comme ils disent. » Ou « C'est un sachant. » Il dit, voilà le mot qu'ils disent. « Lui, c'est un sachant. » Alors, vous vous rendez compte un peu ce que ça implique pour cette personne-là. Et c'est la même chose pour Nicodème. Accepter. Nicodème est venu voir Jésus à quel moment? Qui se rappelle? Pourquoi il est venu dans la nuit? Qu'est-ce qu'on peut supposer? Hein? Ben oui! Il est venu dans la nuit parce que dans la nuit, tous les chats sont gris. On ne sait pas est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Aujourd'hui, il mettrait une cagoule, vous savez, comme les jeunes. tu mets ta, pardon, ta, pas ta cagoule, mais ta capuche. Comme ça, on ne sait pas, c'est lui ou c'est pas lui. Il est venu de nuit. Parce que, ne serait-ce que bien aimé, parler avec Jésus, tu étais mal considéré. Tu étais considéré comme un paria, un traître. Donc il est venu la nuit. Alors Jésus te dit maintenant, tu dois renoncer à tout ça. Donc c'est-à-dire que toi tu es venu en Nicodème, le docteur de la loi. Tu dois sortir d'ici en étant maintenant disciple de Jésus sans rien du tout. Bien aimé, c'est difficile. Et c'est ce qu'on vit aussi avec les catholiques. Beaucoup sont dans le catholicisme. Le seul argument qu'ils ont, c'est « Ah ben, toi, tu veux m'apprendre, tu veux m'enseigner sur Dieu. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu veux ma... » Les gens n'ont pas d'argument. Mais renoncer au catholicisme, parce que lui, il se dit quoi ? Mes parents ont été catholiques. On a fait la première communion. On a fait la confirmation. On a fait le je sais pas quoi encore. On a fait ceci. On a fait cela. Donc tu veux me dire que tous ceux qui m'ont précédé étaient dans le faux. Mais vous voyez un peu comment ça demande un reset, un départ à zéro. Mais c'est très difficile à accepter. Reconnaître que toutes ces années-là, je me suis trompé. J'ai fait fausse route. Maintenant, il faut que je revienne. Alors, qu'est-ce qui se passe alors ? C'est que beaucoup se complaisent de la situation. Pourquoi ? À cause de l'orgueil. Tu sais que la situation dans laquelle tu es est mauvaise, mais tu te plais, enfin, tu te plais, c'est un grand mot, mais tu t'accommodes de la situation. Tu acceptes la situation. Ce fils-là s'est dit, bon, rentrer chez mon père, non. Je ne suis pas prêt. Alors, je vais me débrouiller par moi-même. Je vais aller trouver du travail. Alors, il va trouver du travail. Et dans ce travail, qu'est-ce qu'il a à faire ? Oui, lecteur de la Bible. Qu'est-ce qu'il a à faire ? C'est écrit, il n'y a pas de piège, hein. Sinon, on va citer les noms. Au verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les bien-aimés. Vous voyez comment l'orgueil est fort. Alors, l'homme cherche des solutions, des palliatifs, vous savez comment on dit en langage médical, pour accepter sa situation. Il y a des gens qui sont dans le péché. Il sait que sortir du péché implique de reconnaître mon péché, de me repentir, mais aussi, il y a une troisième étape qui est décisive. Lorsqu'on parle de la repentance, quelle est la troisième étape ? Quelle différence il y a entre la conversion la confession et la repentance. Je nous pose la question. Enseignement de base. Quelqu'un voit-il une différence entre la confession et la repentance ? Oui ? Radio libre, vas-y. Voilà, le frère a dit la confession, c'est quand on exprime à Dieu ce qu'on a fait. La repentance ? Voilà, c'est ça la nuance, bien aimé. La confession, c'est reconnaître, ah j'ai mal fait, mais vous savez, il y en a qui confessent, il dit j'ai mal fait, je suis dans le péché, mais il continue quand même. Il est dans cette salle-là, il sait que petit copain, petite copine, c'est pas bon. Concubinage, c'est pas bon. La cigarette, c'est pas bon. Mais une fois qu'il sort de là, il a son petit paquet, il prend, il sort sa cigarette, ou alors texto, oh ma chérie. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas bon. Mais il s'accommode dans la situation en disant, ah mais, attends, on vit déjà ensemble, on paye le loyer ensemble, moi je suis au chômage en ce moment. Vous voyez comment se fait la construction. Hein? J'ai bâti ma vie autour de la situation. Et c'est ce qui fait que beaucoup vivent leur vie par défaut, au lieu de vivre par choix. Je ne sais pas si on se comprend. Beaucoup vivent par défaut. Ils se disent, c'est-à-dire qu'ils subissent la vie parce que la vivre implique prendre des décisions. Mais vous savez, on est dans le confort, on a deux salaires. On est bien comme ça. Quelqu'un va se mettre avec une personne, voilà, qui n'est pas le plus grand standard de beauté, je cherche quel mot dire, pour ne pas choquer, qui n'est pas le plus beau standard de beauté, mais son équilibre, c'est que, ah, la personne, c'est une tête, hein, l'ingénieur. Au moins, ça équilibre. Quand la famille dit, ah bon, c'est âgé, hein, hein. Oui, oui, mais lui, il a trouvé son équilibre parce que on m'entretient. Beaucoup vivent comme ça. Ce fils dit, bon, je vais aller me mettre au service d'un des habitants du pays. Et il se retrouve à travailler dans les champs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 16, il aurait même bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bien aimé, vous voyez la réalité de ce monde, la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Non seulement il trouve du travail parce qu'il dit il faut que je m'assume, mais tu trouves du travail et dans ce travail-là, on ne te donne même pas à manger. Alors il se dit, mais attends, l'équation n'est pas équilibrée. Les mercenaires chez mon père, ils viennent travailler et ils mangent. Moi, je suis là, je travaille, j'aimerais même avoir ce que mangent les pourceaux, les cochons. Bien-aimé, vous voyez un peu la situation. C'est-à-dire que s'il avait la nourriture, c'est ce que je comprends de ce texte, hein, s'il avait même la nourriture de cochon, il serait peut-être, supposition, resté dans sa situation. Est-ce qu'on se comprend? S'il avait même la nourriture de cochon qu'on réchauffe, vous savez, il serait resté dans sa situation parce que trop de fierté pour revenir. Ah non, surtout pas. Surtout pas revenir. Après tout, que dira mon père? Que dira mon frère? Que diront les voisins? Peut-être que quand il est parti, j'actualise un peu la situation. Tu reçois des textos des voisins, des cousins, pour dire t'es où? Mais tu fais quoi? Tout le monde s'inquiète. Parfois les enseignants qui te contactent pour dire, mais tu es où? Tout le monde te cherche. Non, c'est bon, je ne reviens pas. Alors, tu t'imagines, tout ce cercle-là qui gravite autour de toi, tu vas devoir leur dire des choses quand tu vas revenir. Parce qu'ils vont te demander des comptes. Pas forcément de manière judiciaire, mais ils vont dire, mais tu étais où? Mais pourquoi tu as fait ça? Alors, tu t'imagines toutes ces choses-là. Tu dis, non, je préfère rester dans cette situation-là. C'est la situation de beaucoup bien-aimés qui n'ont pas le courage de changer de cap, qui n'ont pas le courage d'affronter la situation en face. Ils disent, je vais me débrouiller par moi-même. En réalité, ce n'est pas ça le courage. C'est pas ça le courage. C'est ainsi qu'on voit des chrétiens aller à gauche, à droite, changer d'église, changer de copain, changer la couleur de cheveux, changer ceci. Parce que, en réalité, tu veux tout simplement noyer le mal-être qui est au fond de toi. L'exhortation de ce matin, c'est dire, vous savez, ce message de ce matin n'est pas adressé seulement aux païens. Il est adressé à tout le monde. Moi, le premier, ayons le courage de faire demi-tour. Il y a peut-être des décisions qu'on a prises. Il y a peut-être des voies dans lesquelles nous nous sommes engagés par obstination. Les gens nous ont dit, attention, fais attention. Fais attention. Et vous savez quand c'est comme ça? Quand tu vis des difficultés ou tu fais une bêtise, tu préfères rester mutique, tu préfères ne pas en parler parce que tu connais la réaction des gens, on est d'accord. Quand tu vas appeler quelqu'un pour dire « Ah, vous aviez raison », tu dis « Ah, ben voilà, on te l'avait dit, hein !»« Ben voilà !» Ce qui devait arriver est arrivé. Il y a des phrases toutes faites déjà, que tu as déjà préparées dans ta tête. Alors tu te dis, pour ne pas avoir affaire à entendre toutes ces réflexions-là, je préfère rester dans mon coin. Bien-aimé, ce matin, aie le courage de changer de cap. Aie le courage de dire oui, je me suis trompé. Ta réflexion va te dire, mais tu as déjà fait une longue route. Vous savez, comme sur l'autoroute, quand parfois tu es distrait, tu parles avec quelqu'un, tu rates ta sortie. La prochaine sortie est peut-être à 25 km. Donc quand tu roules, tu ne vas plus te faire avoir. Tu attends la prochaine sortie. Mais ce n'est pas parce que tu roules 25 km que je vais dire, puisque c'est long, 25 km, alors je continue ma route, mais tu vas te retrouver à Marseille au lieu d'aller à Lille. Tu vas te retrouver à Marseille. Aie le courage de t'arrêter à un moment donné sur la route. Aujourd'hui, on a des GPS. Vous savez, à l'époque, c'était des cartes. Hein. Nos anciens s'arrêtaient sur la route. Ils regardaient la carte. Tiens, on est sur la 13. Donc là, on s'est trompé. Donc il va falloir qu'on récupère celle-là pour revenir sur la... Mais il faut que tu t'arrêtes. C'est ce que ce fils a fait au verset 17. Il a commencé à réfléchir. Il s'est dit non, là je m'enfonce. Je m'obstine. Et ce n'est pas normal que je souffre alors que la solution est toute faite. Il suffit que j'aille chez mon père. Que je lui dise, écoute, ne me reçois même pas dans ta maison. Reçois-moi dehors, mais au moins que je revienne à la maison. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'amour de Dieu est tellement grand. Il est écrit dans 1 Jean 3:20 que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est ça la réalité, bien-aimé. Ce père, non seulement il reçoit son enfant, mais il se réjouit de voir son enfant. De rétablir son enfant. C'est ça la joie de Dieu, bien-aimé. Alors arrêtons, bien-aimé, de nous obstiner. Vous savez, l'histoire d'un homme dont on a vu le film, malgré tout, Josh McDowell. Je ne sais pas si certains connaissent cette histoire-là. C'est un jeune américain qui a grandi avec beaucoup de souffrance parce que son père était alcoolique, sa mère était assez costaud, souffrant de diabète, finalement sa santé la rendait d'une certaine manière inapte, handicapée. Et le problème d'alcoolisme de son père faisait que le père battait la maman régulièrement. Et Josh, en grandissant, il prend conscience de la situation. Et il témoigne, il dit, vers l'âge de 11 ans, il a fermé son cœur à Dieu. Il s'est dit, mais si Dieu existe, pourquoi il peut permettre que maman se fasse frapper comme ça par mon père? Alors il grandissait avec cette blessure. Et entre-temps, il y a le majordome, l'homme de service de la maison qui s'occupait de lui parce que sa mère étant amoindrie, l'homme de la maison a abusé de lui sexuellement et le faisait régulièrement. Alors il dit que lorsqu'il voulait dire à sa mère, faire des révélations, sa mère n'était pas disposée à entendre parce qu'elle faisait des éloges de cet homme-là. Alors, vous voyez, il a gardé toutes ces choses en lui. Et il a grandi avec ça. Et comme on disait tout à l'heure, quand on est dans une situation difficile, on s'en accommode, on trouve des exutoires, on trouve des moyens pour vivre la situation sans la vivre finalement, sans en souffrir. Alors il s'est mis au sport, au foot, au basket, au baseball. Et il était très bon dans tous ces sports qu'il faisait là. Et finalement, il est allé dans l'armée et tout ça. À l'armée, il a eu un problème, il y a eu un accident. Il a reçu une clé à molette sur la tête de je ne sais pas combien de mètres. Et finalement, il a dû quitter l'armée. Et il est retourné à la fac, à l'université. Et à l'université, il rencontre des chrétiens. Alors il va discuter avec les chrétiens, pour se moquer d'eux. Dire que les chrétiens sont naïfs, les chrétiens croient en Dieu. Mais quelle bêtise, quelle... Et il y a un des chrétiens qui lui dit, écoute, pourquoi tu te fais souffrir? Si tu veux être efficace dans ta recherche et dans ta démarche de nous déstabiliser par rapport à notre foi, fais des recherches et prouve-nous seulement que la résurrection est fausse. Comme ça, tu auras un argument pour démonter notre foi. Parce que nous, en tant que chrétiens, notre victoire, c'est que Jésus a vaincu le péché à la mort. Il est mort, et à la croix, pardon, il est mort et ressuscité le troisième jour. Alors il dit, ok. Alors il se met à faire des recherches pour prouver que finalement, la résurrection, Jésus, tout ça est faux. Il commence aux États-Unis, il ne trouve pas de documents. Il va en Europe, il va en Angleterre, il vient en France, il va en Allemagne. Et finalement, dans ses recherches, il se rend compte que les connaisseurs d'autrefois qui suivaient, qui contredisaient la Bible, la plupart de ces gens-là se sont convertis. Alors, ça l'interpelle, il se dit, mais c'est bizarre. Comment ils en sont arrivés là? Et je la fais court. Finalement, il a commencé à être touché. Il a un ami qui lui parlait du Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui était farouchement opposé à Dieu, se moquer des chrétiens ouvertement. Il a commencé. Il s'est dit, mais si vraiment c'était vrai tout ça. Et vous savez, j'aime bien la phrase qu'il dit. Il dit, parce qu'il parlait avec le pasteur lui parle de la conversion. Et il dit, mais ça serait pour moi un suicide intellectuel d'accepter Jésus. Ça voudrait dire que tout ce en quoi j'ai cru est faux. Mais il dit, au-delà du suicide intellectuel, mes amis vont se moquer de moi. Les gens qui connaissent Josh comme étant celui qui débat, qui arrive à fermer les bouches des chrétiens, mais ils vont se moquer. Bien aimé, c'est ça l'état de beaucoup. Nous ne vivons pas à cause des autres. Ne vivons pas, bien-aimés, à cause des autres. Et c'est ça qui le bloquait. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et il finira par se convertir. Aller voir son père, dire à son père, « Papa, depuis toutes ces années, parce qu'entre-temps, sa mère est morte. » Et il disait dans son témoignage que je n'avais jamais pensé qu'une personne pouvait mourir à cause du chagrin. Il dit, ma mère est morte à cause du chagrin. Tout ce que mon père l'a fait endurer. Et tout ça, il en voulait à son père. Et quand il s'est converti, il est allé voir son père pour lui dire que je t'aime, je te pardonne. Bien aimé, faire demi-tour, c'est avoir le courage de faire la démarche pour aller voir telle personne pour lui dire, écoute, autrefois, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Alors je viens demander pardon. Vous savez, le diable va te dire, attends, ça fait 40 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait longtemps. En plus, la personne est loin. Mais bien aimé, on n'a pas d'excuse aujourd'hui. Même si la personne est à l'est du Congo. Aujourd'hui, on a les moyens avec WhatsApp pour appeler quelqu'un qui puisse aller, qui puisse, ne serait-ce que, même pour envoyer un texto, dire, écoute, je m'excuse, on a les moyens aujourd'hui. Certains vont dire, oui, mais j'aimerais faire la démarche, j'ai envie de faire la démarche. Mais il faut que j'ai les moyens pour acheter le billet. Mes bien-aimés, ce sont des excuses. Il faut que j'achète le billet, il faut que j'aille au pays pour voir la personne. Non! Tu peux commencer la démarche maintenant. Ça demande du courage. Ça demande de reconnaître qu'on s'est trompé. Ça demande de reconnaître qu'on est fautif. Ça demande de reconnaître que j'ai un problème. C'est ça, bien-aimé, le problème de l'homme. Reconnaître cela. Et Josh, c'était ça son problème. Reconnaître, en fait, tous les arguments qu'il mettait en avant pour réfuter Dieu, en réalité, c'était parce qu'au fond de lui, il était dérangé. Et c'est ça qui arrive. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est la même chose. Hein? Saul de Tarse. Dieu l'appelait, mais lui, sa défense, c'était quoi? Attaquer les chrétiens. Persécuter les chrétiens. Tuer les chrétiens. Parce qu'au fond de lui, il était tiraillé. Mais c'est ce qu'il dit dans Philippiens 3, qu'on peut lire hein, rapidement. Philippiens 3. Philippiens 3, lisons ce que l'apôtre Paul dit de lui-même. Philippiens chapitre 3. On peut commencer au verset 4 pour comprendre le contexte. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien plus davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, pardon, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Bien aimé, vous voyez le CV de Paul. Qui peut en dire autant? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, bien aimé. Tout ce qui était ma fierté, je les ai regardés aujourd'hui comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit non seulement c'est une perte, mais c'est de la boue. Vous savez, la boue quand on vous lance, quand il pleut et qu'on vous éclabousse, qu'est-ce qui se passe? Vos habits sont propres. Ça tache les habits. Donc non seulement c'est une perte, mais d'avoir ces choses-là autour, à côté de moi, ça me salit. C'est ça qu'il dit. Je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, bien-aimé. Toutes ces choses qui étaient une force pour moi, je les regarde comme de la boue. Vous savez, le combat de Paul, c'était ça. Lui qui était respecté. Mais devenir chrétien. On se rappelle lorsque le Seigneur l'envoie. Quand il devient aveugle. Et le Seigneur parle à la personne qui va le recevoir pour lui dire, écoute, je t'envoie un homme pour lequel tu vas prier. On se rappelle ce que cet homme-là répond à Dieu. Qui se rappelle ce que cet homme répond à Dieu? Il dit quoi? Comment? Qu'est-ce que cet homme-là répond à Dieu? Quand Dieu lui dit, écoute, je t'envoie Saul de Tarse, tu vas prier pour lui. Ah bah oui! Il dit, mais attends Seigneur, mais tu m'envoies un autre assassin! Alors, vous imaginez ce que Paul lui-même maintenant devait ressentir en lui. Donc on t'envoie maintenant, tu es aveugle, on te dit, bon écoute, celui qui va te guérir, c'est celui, bien aimé, il faut du courage. Hein. Il faut du courage pour venir dire, bon, parce que là quand tu viens comme ça, à distance, tu commences à t'excuser. Hein. Parce que la personne va te regarder pour dire, ah bon, toi qui nous persécutes, tu viens demander de l'aide auprès de moi. Alors toutes ces choses-là, c'est ça qui maintenait Paul dans cet état-là, de persécuter l'Église. de faire la sourde oreille. Et beaucoup sont comme ça, bien-aimés. Alors ce matin, ayons le courage. Comme Josh, il est allé voir son père. Il est allé voir cet homme qui a abusé de lui pour lui dire, écoute, tu m'as fait du mal, mais aujourd'hui je suis devenu chrétien. Et je te pardonne et je prie pour toi. Bien-aimé, c'est ça le courage. Le courage, c'est pas d'être en colère dans son coin, de bouder. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est d'être capable de se repentir, dire, j'ai mal fait. Et en disant cela, il y a des conséquences. C'est ça qu'on ne veut pas. Nous, on voudrait changer la situation, mais sans qu'il y ait des conséquences, mais ça n'existe pas, bien-aimé. On voulait faire réparation, mais sans qu'il y ait des conséquences, ça n'existe pas. Ayons le courage, bien-aimé, de faire demi-tour. Ayons le courage de reconnaître pour dire, mon frère, prie pour moi parce que j'ai des mauvaises pensées. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas continuer à t'enfoncer. Si tu ne fais pas ça, tu vas continuer à mourir à petit feu. C'est ça la réalité. Le diable va... Vous savez, tu es piégé. Beaucoup vivent dans des situations où ils sont piégés. Ils se disent, si je sors, je vais dans l'inconnu. Si je reste, je souffre. Mais au moins, personne ne sait que je souffre. C'est ça le piège dans lequel beaucoup se trouvent. Et le message du Seigneur aujourd'hui, ayons le courage de changer de cap. On se rappelle les deux brigands à la croix dans Luc 23, verset 39. L'un se moque de Jésus. Mais bien aimé, le second a eu le courage de reprendre son ami. Vous savez, souvent, quand on fait des bêtises, on est souvent complice dans nos bêtises. Avec les gens qui sont proches. Mais un jour, ton proche fait une bêtise, tu as le courage de lui dire, ah non, mais non, moi je ne fais pas ça. Hein. Ah, si tu veux le faire, tu le fais tout seul. Il faut avoir du courage parce que ça implique quoi? Il y a des conséquences. C'est que tu risques ce jour-là de perdre l'amitié. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un fait la bêtise, tu dis, ah non, non, moi je vais te dénoncer. Hein. Oh, la balance! Ah, ça y est, à partir d'aujourd'hui, moi je ne te parle plus. Hein. Et là, il va les dire aux autres. Hein. Oh, vous savez quoi? C'est une balance! Ah là, ça y est, tu en as pour un petit moment. Alors, pour ne pas vivre ça, bah, tu préfères ne rien dire. L'autre brigand dit, mais non, mais attends, nous, on mérite ce qu'on vit là. On est mauvais. C'est normal qu'on vive ça. Mais lui n'a rien fait. Bien-aimé, mettons-nous à la place de cet homme. J'essaie de m'imaginer quand il reprend son ami, vous savez, il y a des situations qui sont tellement incongrues, improbables, que tu n'as même pas de réplique à donner, hein, parce que tu es tellement surpris. Son ami, le premier a dû tellement être surpris, pour se dire, mais comment toi tu viens rajouter ton grain de sel dans ce que moi je suis en train de dire là? En plus, d'ailleurs, comment tu peux te confier en quelqu'un? Pardon, qui est crucifié comme toi? Tu as un problème. Mais bien aimé, le deuxième a eu le courage. Il a compris que là, c'était l'éternité. Le salut, il est individuel. On a fait des bêtises, on a marché ensemble, on est condamné ensemble. Mais là, moi, je prends la décision de me mettre en règle avec le Seigneur. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Bien-aimé, c'est cela. Mais il aurait fallu du courage, qu'on dise, mais il est fou. Comment il se confie en quelqu'un qui subit le même sort que lui? Mais il a un problème. Mais il n'est pas normal. Oui, tu as beau dire tout ce que tu veux, Mais lui, il a reçu une promesse qui est immuable, qui est éternelle. Je finis avec l'histoire de Zachée, bien-aimé, qui était un homme mauvais. Un homme voleur, malhonnête. Et lorsque Jésus va chez lui, qu'est-ce que la foule dit? La foule dit, oh, Jésus va manger chez un homme pécheur. Donc vous imaginez un peu ce que la foule pense, les voisins, les amis, pensent de Zachée. Et lorsque Jésus entre chez lui, Zachée dit à Jésus, Seigneur, aujourd'hui, je décide de restituer tout ce que... Bien-aimé, c'est là qu'on parle du courage, bien-aimé. Parce que restituer tout ce qu'il a pris implique une nouvelle vie. Ça implique, pendant un temps, que les gens se moquent de toi. Ça implique, parfois, de recevoir des coups bas. Ça implique, parfois, que les gens à qui tu as fait du mal autrefois viennent aussi se venger maintenant. Pour dire, tiens, tu m'as fait du mal, maintenant, regarde. J'ai pas oublié, hein. Bien-aimé, ça implique tout ça. C'est ce qui fait que beaucoup de mauvais restent mauvais. Parce qu'il aimerait changer, mais il se dit, mais attends, si je deviens bon, mais les mauvais d'autrefois avec qui j'ai été plus mauvais, eh ben, ils vont se retourner contre moi. Alors, je préfère rester comme ça. Même si au fond de moi, je sais que j'ai... Non. Zachée a eu le courage de dire à Jésus, je suis un homme voleur. Je suis un homme mauvais. Ma vie ne me plaît pas. Il est écrit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? La vie d'un homme ne dépend pas de ça. Il avait tout. Mais il était malheureux. Et pour être heureux, il fallait qu'il se tourne vers Jésus. Et c'est ça le message de ce matin, bien-aimé. Aie le courage de te tourner vers le Seigneur aujourd'hui. Ne dis pas, je suis jeune. J'ai la vie devant moi. Mais vous savez, hier, je suivais le témoignage d'une petite fille qui doit avoir 4 ans, qui souffre d'un cancer. Et bien aimé, je me dis, moi, à mon âge, 40 ans, tu vois un enfant de 4 ans. Et la petite fille qui disait, je comprends pas pourquoi ma maladie, comme elle l'appelle, était dans mon ventre. Après, j'ai eu une grosse bosse dans la tête. Le médecin m'a dit que la maladie est montée sur la tête, bien-aimée. Alors, quand tu vois ça, et la petite qui pleure, qui dit, mais la vie est tellement belle, j'ai envie de vivre, mais à cause de cette maladie, je ne peux pas vivre. Alors, quand tu vois ça, tu ne peux que remercier le Seigneur. Dire, Seigneur, merci. Qu'est-ce que cette fille a fait de moins que moi pour mériter ce qu'elle vit là? Toi qui as deux mains, qui as deux bras, deux jambes, toi qui as des cheveux, c'est la grâce de Dieu. Les cheveux, tu peux les perdre. Le bras, tu peux le perdre. Le cousin d'un ami qui travaillait dans l'entreprise avec des machines se retrouve ce jour-là seul. Alors, il y a un problème avec une machine. Il va pour fixer la machine. Son bras est aspiré. Le bras est sectionné sur le cou. Le jeune avait combien, 19 ans? Il vient d'acheter sa maison, il est en couple et tout ça. Bien aimé, c'est la vie qui prend un nouveau tournant. Bon joueur de foot. Et il était seul. Donc il est tombé, perdant du sang. Vous savez, en plus, je crois qu'il travaillait de nuit. Il n'y avait personne. Donc les gens ont dû venir peut-être une heure ou deux heures après. Et le collègue me dit que après l'opération, parce que le bout de bras qui restait, on a dû l'enlever ça, et après l'opération, dans la phase de réveil, il dit qu'il avait mal au bras. Le bras qui a été amputé, bien sûr. que le bras le grattait. Et c'est là que les médecins expliquent que, c'est-à-dire que la mémoire, pour son cerveau, il a toujours son bras. Vous, vous ne voyez pas le bras, mais lui, il sent qu'il a, il a mal au bras. Parce que le cerveau a toujours enregistré qu'il a un bien-aimé. Mais quelle vie, quel bouleversement. Alors quand tu vois ça, tu as beau te pavaner pour dire « Oh, je suis belle. Oh, je suis beau, mais bien-aimé. » C'est un cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Alors reviens à Dieu. Aie le courage de faire demi-tour. Arrête de poser toutes sortes de réflexions pour dire oui, mais moi j'ai... Mais quelles sont les certitudes que tu as? Et même si tu les as, et d'ailleurs, et alors? Ayons l'humilité, bien-aimé. Ayons le courage de nous dire, bon, je me suis trompé. Seigneur, alors aide-moi, révèle-toi à moi. Et au moins ce courage-là de dire, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et ce courage-là. Le courage, c'est pas de dire, oh, mais moi ou toutes ces... Non, c'est pas ça le courage. Parce qu'en réalité, il t'arrive de te poser des questions sur ton existence. Sur l'éternité, où est-ce que tu seras si jamais tu meurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Même si tu ne le dis pas au fond de toi, tu te poses ces questions-là. Alors, aie l'humilité de reconnaître, de dire que j'ai un problème, Seigneur. Viens m'aider. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide ce matin. Prions pour que le Seigneur agisse par son esprit et que nous puissions prendre la décision aujourd'hui de faire demi-tour, de revenir vers le Seigneur, de changer de cap. Vous savez, c'est comme un pilote qui engage son avion dans une direction. Et parfois, la vitesse de croisière peut être en moyenne peut-être de 900, 800 km/h. Vous imaginez, pendant 3 heures, tu as roulé dans une direction et il s'avère que tes radars étaient défectueux. Donc tu dois faire demi-tour pour rentrer dans la bonne direction, pour aller là où tu dois aller. Parce que si tu t'obstines, tu vas te retrouver en Afrique du Sud au lieu d'aller en Australie. Mais il faut du courage pour dire, écoutez, mesdames et messieurs, suite à un problème, nous devons faire... changer le cap pour reprendre notre direction. Il faut l'humilité pour ça. Tu ne vas pas dire, oui, mais moi je suis un grand pilote, je suis connu, je suis... Mais oui, mais tu peux te tromper aussi. Prions pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à faire le bon choix ce matin, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous tromper parce que nous sommes jeunes, parce que nous... Nous avons de la force, Seigneur. Seigneur, la force que tu nous donnes n'a de sens que lorsque cette force est à ton service, Seigneur. Nous avons mis de l'énergie pour beaucoup de choses qui ne produisent rien du tout, Seigneur. Et nous nous rendons compte que c'était une perte de temps, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides aujourd'hui, Seigneur, à faire demi-tour, à revenir vers toi, à la source de vie, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tous ceux qui luttent au fond d'eux, peut-être avec un péché, le mensonge, le vol, avec la double vie, Seigneur, peut-être une forme d'hypocrisie, tous ceux qui luttent, Seigneur, avec le manque de pardon, Seigneur. Tous ceux qui luttent, Seigneur, à cause des raisonnements, Seigneur, ne veulent pas céder à toi. Seigneur, nous prions ce matin pour que ton esprit agisse. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Merci de te manifester dans nos vies ce matin. Merci pour l'œuvre de ton esprit qui agit au milieu de nous. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Okay. Nous allons passer aux annonces. Donc nous n'avons pas d'annonce particulière. Nous nous retrouvons tous les mardis à partir de 18h sur CCN Bethléem, donc sur notre site internet, pour bénéficier du temps de louange qui dure environ 30 minutes. Et ensuite, à partir de 18h30, nous avons le choix de différentes plateformes, soit sur YouTube, comme cela se fait habituellement. 18h30, parce que sur YouTube, nous avons toujours un problème avec la question de droit qui font que les chants, quelquefois, sont censurés. Donc, nous nous retrouvons à 18h30 sur YouTube et sur CCN Bethléem. Mais ceux qui veulent suivre la louange, c'est sur ccnbethléem.com. Voilà pour le mardi. Et nous avons la possibilité de poser des questions. En ce moment, nous sommes dans le livre de psaume. Et nous parcourons les Écritures pour recevoir la pensée du Seigneur. Le mercredi, nous nous retrouvons dans nos différentes cellules, Rouen droite, Rouen gauche et Grand Couronne, pour un temps de prière. Nous prions principalement pour le salut de la Normandie et pour différents sujets que nous pouvons aussi donner. Et nous nous retrouvons aussi le dimanche, comme aujourd'hui, à partir de 10h, pour un temps de louange et de partage de la parole de Dieu. Donc nous allons bénir le Seigneur et prier pour recommander le temps de communion fraternelle, ainsi que l'après-midi entre les mains du Seigneur. Donc je rappelle aussi que pour ceux qui ont reçu le message, nous faisons des répétitions pour les enfants à Cantleu, chez Diacre Rossi et la sœur Christelle, de 14h à 15h, il me semble, donc tous les dimanches, pour préparer la soirée du 31 à l'honneur de notre Dieu. Donc je rappelle que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une salle pour cette période-là, et nous voulons glorifier le Seigneur, profiter de ce temps pour élever le nom de Dieu ensemble. Nous allons prier pour glorifier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous bénissons ton nom et nous te louons parce que, Seigneur, toi, tu sais parler à nos cœurs, Seigneur. Comme Jésus, tu as parlé à Nicodème, parce que tu connaissais les aspirations de son cœur. Tu connais aussi les aspirations de nos cœurs. C'est pour ça que tu nous as parlé ce matin. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire le bon choix. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit, Seigneur, le choix nous revient à nous. Et nous faisons le choix aujourd'hui, Seigneur, de revenir à toi. Comme ce fils, nous nous sommes éloignés d'une certaine manière, par notre façon de faire, par notre façon de penser, par notre façon d'accepter aussi la vie, Seigneur, telle qu'elle vient avec... Seigneur, parfois le péché en s'y accommodant, Seigneur. Seigneur, nous renonçons à tout cela, Seigneur. Comme ce fils, nous revenons à toi. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. À toi la gloire au siècle des siècles. Te recommandant le temps de communion fraternelle, tout ce que nous allons partager, nous prions pour... Te recommander également les répétitions, Seigneur, qui auront lieu cet après-midi, Seigneur. Nous prions pour que ta protection, que ta grâce soit sur nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour les conversions au milieu de nous. Merci de toucher les cœurs de ceux qui semblent insensibles, Seigneur. Seigneur, merci pour le travail que tu fais dans les cœurs de chacun, pour venir à toi au nom de Jésus. Amen.